Vous écoutez RFI les 16h à Paris, 19h à Tbilissi.
Karine Bellicha.
Bonjour à tous. À la une de l'actualité, la visite d'Emmanuel Macron à Rabat. Le président français est au Maroc pour une visite d'État de 3 jours. 3 jours pour effacer 3 ans de brouille entre les deux pays. Alors qu'en Géorgie, l'opposition pro-européenne défile dans les rues de Tbilissi en ce moment. Elle dénonce un scrutin volé, officiellement remporté par le parti au pouvoir, favorable à Moscou. Plus au nord en Ukraine, les troupes russes progressent toujours dans l'Est. Les dénonciations de crimes de guerre continuent. Et puis nous parlerons de foot à la fin de ce journal et une nouvelle ère qui s'ouvre à Manchester. Son entraîneur a été limogé. Le coach néerlandais paye un très mauvais début de saison de l'équipe anglaise et une fronde des supporters. Tourner la page, donner un nouvel élan. Après 3 ans de froid polaire, la France et le Maroc scellent leur réconciliation aujourd'hui. Emmanuel Macron débute une visite d'État de 3 jours. Il est attendu à Rabat en fin d'après-midi. Le faste d'une visite d'État pour relancer la coopération entre les deux pays, mise à mal notamment par la crise des visas. La réduction de moitié des visas accordés par la France aux Marocains à partir de 2021 a laissé des traces. La France faisait pression sur le Maroc pour qu'il produise plus de laissez-passer consulaires, des documents indispensables pour expulser des étrangers vers leur pays d'origine. La mesure a été levée fin 2022, mais le dossier n'est pas refermé pour autant, d'autant plus que le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui fait partie de la délégation française, continue d'agiter la menace des visas aux grandes dames des Marocains.
Je suis tout à fait contre. On aime très bien en fait la France et on aimerait bien continuer nos études là-bas, rencontrer nos amis, nos familles. Ce n'est pas juste en fait.
Nous les Marocains, nous voudrions que Macron augmente le nombre de visas et qu'il y ait une solution à cette crise. Puisqu'il vient au Maroc et qu'il sera à Rabat où il va rencontrer le roi, c'est nécessaire de parler de cela. Je pense que c'est bientôt la fin de mandat de Macron. Il se peut que ça ou son successeur réduise encore plus les visas.
Je pense que ce sera l'un des premiers problèmes à être mis sur la table. C'est l'un des dossiers les plus importants parmi ceux qui doivent être discutés entre les deux pays. Pour moi, ce n'est pas logique, surtout que le Maroc est un pays francophone. Beaucoup de familles ont souffert ces 2 années-là. Beaucoup de gens ont dû changer leur plan.
Des propos recueillis à Casa par notre correspondant Mathias Reynal. Au Proche-Orient, Israël a mené de nouvelles frappes meurtrières au Liban. 5 personnes ont été tuées dans un bombardement dans la ville côtière de Tyr, dans le sud du pays. Le Hezbollah dit avoir à l'instant visé une base navale israélienne près de Haïfa. Dans la bande de Gaza, les frappes continuent surtout autour du camp de Jabalia. Le ministère de la Santé du Hamas annonce que la barre des 43 000 morts a été dépassée dans l'enclave palestinienne depuis le début de la guerre, il y a plus d'un an. L'opposition géorgienne va se compter aujourd'hui dans les rues de Tbilissi. Une manifestation commence en ce moment même, un test de mobilisation. Pas question pour les pro-européens de reconnaître les résultats du scrutin. Le parti au pouvoir est donné vainqueur des législatives. Les pro-européens craignent que les espoirs d'adhésion 27 soient réduits à néant et que la Géorgie se rapproche encore de l'orbite russe. Les États-Unis et l'Union européenne demandent une enquête sur le scrutin. Le Kremlin nie toute ingérence. Ne pas provoquer une guerre avec la Russie, voilà la peur agitée par le parti au pouvoir en Géorgie qui se présente comme un garde-fou. La guerre en Ukraine fait peur, les foudres du Kremlin aussi. En Ukraine, justement, l'avancée russe continue notamment dans l'Est et les accusations de crimes de guerre aussi. Les autorités dénonce, vidéo à l'appui, le meurtre de civils. Les explications de notre correspondante Emmanuelle Chaz.
Ces nouvelles vidéos montrent des exactions commises contre des civils dans la commune de Selidové, c'est dans la région de Donetsk, à environ 18 km de Pokrovsk. Ce secteur est le théâtre d'intenses combats entre les armées russes et ukrainiennes. Les vidéos montrent des incidents séparés, d'une part des soldats russes qui ouvrent le feu sur des civils en voiture, une personne blessée a ensuite été secourue par des soldats ukrainiens. D'autre part, une seconde vidéo montre 2 femmes assassinées dans un quartier résidentiel plutôt calme et sous contrôle russe. Ces images ont été diffusées sur les réseaux sociaux et elles ont fait réagir Kiev. Le commissaire aux droits de l'homme Dmytro Loubinets a immédiatement écrit au Comité international de la Croix-Rouge ainsi qu'aux Nations Unies et le parquet ukrainien a ouvert une enquête pour crimes de guerre. Les vidéos d'exécutions sommaires de soldats sont de plus en plus fréquentes, notamment dans cette région de Donetsk. L'Ukraine parle d'au moins 102 soldats assassinés. Ces crimes vont à l'encontre des conventions de Genève et chacun fait l'objet d'enquêtes pour tenter d'en trouver et condamner les responsables. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
En Allemagne, Volkswagen envisage de supprimer des dizaines de milliers d'emplois. Le premier groupe automobile européen veut fermer au moins 3 usines dans le pays. Le comité d'entreprise du constructeur dénonce un plan social historique. Le groupe entend répondre à une forte pression pour réduire les coûts et rester compétitif. C'est la première fois depuis près de 20 ans qu'un chef de gouvernement espagnol se rend en Inde. Pedro Sanchez va passer 2 jours sur place. L'année dernière, les échanges commerciaux entre les deux pays s'élevaient à 10 milliards de dollars. Le but est de signer de nouveaux contrats et de développer encore ces échanges. Charlotte Cosset.
L'Espagne et l'Inde vont de l'avant en promouvant la collaboration industrielle et technologique, a posté Pedro Sanchez sur les réseaux sociaux, et ce depuis le site d'assemblage d'avions cargo militaires de Vado d'Ara. Sur ce site, 40 de ces avions vont être produits grâce à un partenariat entre l'avionneur européen Airbus et le groupe indien Tata. Un partenariat issu de la commande d'une cinquantaine d'avions, dont une partie sera produite en Espagne, un contrat d'un montant de 2,5 milliards de dollars. L'Espagne n'est que le 16e investisseur en Inde, la 5e économie de la planète, un pays d'opportunités pour Madrid. La croissance de l'Inde dépasserait les 8% cette année et dispose d'une population jeune et qualifiée. Pour l'Inde, Madrid est un partenaire commercial à entretenir alors que ses relations avec les pays de la région sont compliquées. Au cours de ces 2 jours, contrats et mémorandums devraient être signés. Des débouchés sont attendus notamment dans l'armement, l'innovation et la technologie.
J-8 avant la présidentielle aux États-Unis, 41 millions d'Américains ont déjà voté de manière anticipée. Le président Biden doit voter aujourd'hui. Les candidats continuent à labourer les états clés, ce qui peut faire basculer le scrutin. Kamala Harris ira dans le Michigan dans la journée. De son côté, Donald Trump sera en Géorgie. En France, le procès de Gérard Depardieu a débuté sans lui au tribunal de Paris pour raison de santé. L'acteur assurait pourtant vouloir s'expliquer. Visé par de nombreuses accusations de violences sexuelles, il doit être jugé cette fois-ci pour agression sexuelle sur 2 femmes lors du tournage des Volets Verts en 2021. Le procès devrait être reporté. Du football pour finir ce journal et un changement de cap pour Manchester United. Le prestigieux club anglais a décidé de se séparer de son entraîneur, Erik ten Hag. Bonjour Cédric de Oliveira.
Bonjour.
L'entraîneur néerlandais était sur la sellette depuis longtemps. Il paye le mauvais début de saison de son équipe et la fronde des supporters.
Oui, ça lui pendait au nez depuis un moment à Erik ten Hag. Mais cette fois, le communiqué a été publié par Manchester United aujourd'hui, mettant fin à sa collaboration donc avec les Red Devils. La défaite contre West Ham ce week-end en championnat aura donc eu raison de lui. La 4e en 9 matchs depuis le début de la saison en Premier League. Une 14e place en championnat et des résultats décevants en Ligue Europa. Bref, ça n'a pas vraiment fonctionné depuis cet été pour ten Hag, qui est arrivé il y a 2 ans et demi, en avril 2022, et qui n'a pas réussi à s'installer malgré un effectif pléthorique. Il part en ayant tout de même remporté la Coupe de la Ligue en 2023 et la Coupe d'Angleterre l'an dernier, en ayant battu notamment le grand rival Manchester City en finale. Un maigre bilan pour United, le club qui confirme qu'il ne parvient pas à trouver de la stabilité. C'est l'adjoint de ten Hag, Ruud van Nistelrooy, ancienne gloire du club, qui va assurer l'intérim avant que les dirigeants mancuniens se penchent sur un successeur, un éventuel grand nom qui pourra peut-être s'inscrire sur la durée, enfin sur le banc de Manchester.
Et en attendant de savoir qui prendra la suite, United accueillera donc Leicester en League Cup ce mercredi à Old Trafford. Un mot de football français pour refermer ce journal et la lourde défaite de l'OM hier soir contre le Paris Saint-Germain. 3-0, on annonçait un classico des plus serrés, mais il n'y a pas eu de match. Le PSG a largement surclassé l'Olympique de Marseille à domicile au Vélodrome. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, place à vous m'en direz des nouvelles avec vous, Jean-François Cavdet. Bonjour.
Bonjour et merci. C'était le journal de Karine Bellicha. Prochain rendez-vous avec l'information à 17h, heure de Paris, avec le journal en français facile. Et puis, dans une poignée de secondes, on va se rendre au Palais de Tokyo, dans le 16e arrondissement de Paris, pour une exposition d'art contemporain figure